Bonjour, vous écoutez À Propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. Un film consacré à Enzo Ferrari sort en salle ce mercredi. Vous entendrez l'acteur principal Adam Driver dans un instant. Mais d'abord, dans un peu plus d'un mois, les Russes seront appelés aux urnes pour élire leur président. Et il n'y a pas trop de suspense. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
Le 17 mars, ce sera le premier tour de l'élection présidentielle en Russie. Un scrutin dont l'issue ne fait guère de doute. Vladimir Poutine sera réélu. Il faudra juste voir avec quel taux de participation. Benjamin Kennel est le correspondant du soir à Moscou. On l'a appelé pour qu'il nous raconte l'ambiance en Russie à quelques semaines des élections, qu'il nous raconte les grands enjeux et les questions qui restent sans réponse.
Bonjour Benjamin.
Bonjour.
On est à un peu plus d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle russe. Comment est-ce que vous définiriez l'ambiance à Moscou ces jours-ci? On sent quelque chose monter autour de l'élection ou c'est toujours la guerre, l'opération spéciale qui rythme le quotidien?
Alors vous soyez surpris, en fait c'est ni l'un ni l'autre. Je viens de rentrer à Moscou il y a 3 jours et l'élection présidentielle qui a lieu le 17 mars est peu présente dans les rues et dans les conversations. Il n'y a pas beaucoup d'affiches. Il y a quelques affiches indirectement pour la campagne de Vladimir Poutine. Il y a quelques affiches plus directes pour les 3 autres candidats de l'opposition dite autorisée. Mais on ne sent pas un bouillonnement électoral. Vous savez que pour venir d'Europe sur Moscou, il n'y a plus de vol direct et donc on passe souvent par Istanbul. Et donc j'ai passé une journée à Istanbul où dans quelques semaines, il y a une élection municipale. Et là, il y a plein d'affiches de partout. On sent l'élection monter et on sent les gens, les taxis en parlent. Ici, les taxis n'en parlent pas et on ne voit pas l'élection sur les affiches. On ne parle pas tellement non plus de, entre guillemets, l'opération militaire spéciale parce que 2 ans après, les gens se sont habitués. Là aussi, il y a peu d'affiches, il y a beaucoup moins d'affiches qu'avant pour recruter des volontaires pour aller au front. Il y a moins d'affiches de propagande patriotique. L'économie, on aura sans doute l'occasion d'en reparler, reprend du coup. Il y a de nouveau des affiches commerciales, puisque avant, un des signaux de la mini-crise économique, c'était le fait qu'il n'y avait plus tellement d'affiches publicitaires, et là, c'est moins le cas. Donc, la vie continue, la vie suit son cours, le conflit est là, la présidentielle est là, Poutine est là, omniprésent mais absent concrètement dans la vie de tous les jours.
Elle se présente comment cette élection? Est-ce qu'il y a une possibilité aussi infime soit-elle que Vladimir Poutine ne gagne pas?
Non, parce que dès le début, dès cet été, son porte-parole, Dmitri Peskov, avait fait comprendre que ce n'est pas une élection, mais c'est une formalité administrative. Donc depuis des semaines, des mois, le Kremlin, l'administration présidentielle, l'administration gouvernementale, et puis les relais dans les régions, et puis les relais par la télévision, et surtout de plus en plus les relais par les réseaux sociaux, préparent le terrain pour que le président obtienne un bon score, un score qui sera sans doute plus élevé que celui de sa dernière élection en 2018. Il avait déjà obtenu 76%. Sa cote de popularité est encore plus élevée aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Et donc, le Kremlin vise pour un score qui sera sans doute au-dessus de 80%. Donc, il n'y a aucune chance que Poutine perde l'élection. Le résultat, on le connaît. Mais ce qui est intéressant, c'est le chemin qui mène au résultat. On a vu un peu de, je ne dirais pas des manifestations, mais des quelques formes de protestations à Moscou avec les femmes démobilisées. En région, on l'a vu à Oufa et près de l'Oural, il y a eu des mouvements locaux de protestations pour les sujets très locaux. Mais bon, à chaque fois, ça trouble un peu l'image, le narratif du Kremlin. Mais rien qui ne puisse mettre en cause et en question sa popularité qui est réelle, mais qui est largement orchestrée par la propagande.
Tout à l'heure, vous parliez d'opposition autorisée, parce qu'il n'y en a pas vraiment en fait, d'opposition. Il y a un homme, Boris Nadejdine, qui aurait pu incarner cette opposition, mais sa candidature a été rejetée. Et donc au final, les candidats qui se présentent face à Vladimir Poutine, c'est vraiment une opposition de façade.
Alors il y avait un homme, Boris Nadejdine, il y avait aussi une femme, Katia Dounsova. Lui, 60 ans, est un vieux de la vieille de la politique russe, député libéral des années 90, qui est toujours un peu dans les mouvements d'opposition, mais pas très connu, et qui a un pied aussi dans le système, mais qui avait décidé de se présenter à la présidentielle, qui a rassemblé les 100 000 signatures indispensables. Et en fait, il en a eu plus de 200 000, mais ça n'a pas suffi la commission a décidé qu'il y avait trop de signatures qui n'étaient pas conformes, il n'a pas pu s'enregistrer. Et avant lui, il y avait une certaine Yekaterina Dountsova, qui, elle, du coup, était totalement inconnue, une journaliste élue locale dans une petite ville près de Moscou, opposante depuis toujours, qui faisait des petits mouvements, des petites participations d'opposition chez elle, mais qui, avec un petit groupe d'amis, avait décidé en novembre de tenter le coup de se présenter. Elle n'a pas passé le premier obstacle pour pouvoir présenter ses candidatures, donc elle n'a même pas eu à rassembler ses candidatures, elle a été éjectée du système.
Et donc concrètement, le 17 mars, face à Vladimir Poutine, il y aura trois candidats qui représentent des partis déjà présents à la Douma ?
Oui, trois candidats des trois partis représentés à la Douma, la chambre basse du Parlement, qui n'ont donc pas besoin de ce fait d'avoir 100 000 ou 300 000 signatures. D'office, ils sont autorisés à participer à la présidentielle. C'est les trois candidats d'opposition qui, à la Douma, font un peu du spectacle, font des contre-propositions, mais finissent toujours par voter avec le Kremlin et soutenir ses projets de loi et ses initiatives, et notamment soutiennent l'opération militaire spéciale en Ukraine. Et leurs candidats qui les représentent seront dans la même ligne. Donc ils feront le spectacle à la télévision, ils participeront au débat sans Vladimir Poutine, qui lui est au-dessus de la mêlée. Ils feront des débats entre eux, tout comme leurs députés le font à l'Assemblée législative, mais au final, on sait qu'ils soutiennent le système.
Une élection sans opposants, ça veut dire que ça va se jouer à quoi ? Ce sera un espèce de référendum pour ou contre Poutine, pour ou contre l'opération spéciale ?
Pour et contre les deux. Comme on sait à l'avance que ce sera 80% pour Poutine et donc pour l'opération spéciale, les deux étant mêlés. Le seul vrai suspense, c'est pas qui va voter pour les trois autres candidats, mais c'est le taux de participation. S'il y a un taux de participation très faible, ça montrera le peu d'enthousiasme suscité dans la population par cette élection. Et donc, ce sera en creux une forme d'opposition à l'élection, donc au système, donc au Kremlin, donc à son opération militaire spéciale. C'est comme ça qu'il faudra le lire. Pour booster la participation, on avait un temps pensé que le Kremlin allait justement permettre à un candidat d'opposition de se présenter pour avoir plus d'électeurs, mais non, ils ont décidé de ne pas prendre le risque. Et par contre, c'est les vieux systèmes qui sont en place. On va forcer beaucoup de fonctionnaires à aller voter, les employés des écoles, dans les entreprises, n'oublions pas que la moitié de l'économie appartient à l'économie d'État, on encouragera très fortement les employés à aller voter, et ainsi de suite. Et il ne faut pas oublier que cette élection a lieu sur 3 jours, donc ça permet à ceux qui veulent aller à la pêche le dimanche d'aller voter le vendredi ou le samedi. Ça permet aussi d'avoir 3 nuits entre les 3 jours, et donc potentiellement ça permet de compléter les votes.
Sur quoi est-ce qu'il capitalise Vladimir Poutine, en fait, ce sera quoi les principaux points de son, on ne peut pas parler de programme, mais les points sur lesquels il peut capitaliser, c'est ça? Vous avez notamment parlé d'une économie qui revit un petit peu ces derniers mois.
Alors, l'économie va bien, l'économie va beaucoup mieux que ce que Bruxelles et Washington pensaient il y a 2 ans lorsque les premières sanctions ont été lancées. Une croissance l'an passé de plus de 3%, la production industrielle a augmenté aussi de plus de 3%, le chômage est à un niveau bas, moins de 3%, les banques vont bien, les magasins sont toujours aussi pleins. Le seul élément dans le quotidien des Russes, c'est l'inflation, la forte augmentation des prix. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait des effets catastrophiques des sanctions sur l'économie, sur le quotidien des Russes. Donc Poutine peut dire, voilà, regardez les résultats, l'économie va bien, regardez les résultats de l'opération militaire spéciale, on a gagné des nouvelles régions dans le Donbass, regardez, je ne suis pas isolé, regardez sur la scène internationale, je ne suis pas isolé puisque j'ai des amis en Chine, en Asie, en Corée du Nord, en Amérique du Sud. Par contre, regardez comment ça va mal aux États-Unis, regardez comment ça va mal en Belgique ou en France. Et donc, il peut toujours retourner les arguments et revenir à son narratif sur « nous, la Russie, nous défendons notre pays ». Attaché à certaines traditions, attaché à certaines valeurs, ça c'est une partie de l'électorat, mais en ajoutant que le pays est en mouvement, à la fois économiquement et avec plein de progrès dans la vie de tous les jours. Et par exemple, un des focus de cette campagne indirecte du président, c'est cette grande exposition que le Kremlin a montée dans un immense parc à Moscou, qui s'appelle Rossiya, la Russie, qui est concentrée de tout ce que la Russie a pu faire de bien en 20 ans pour améliorer ses infrastructures, pour ouvrir des écoles, construire des routes, bâtir des logements. Énorme succès, jusqu'à 150 000 visiteurs par jour, mais surtout c'est relayé dans les régions parce que chaque jour, la télévision publique monte des reportages, fait des interviews à partir de cette exposition. Et donc ça relaie le message depuis début novembre que la Russie, c'était un terrain de tradition et de valeur, mais c'est aussi un pays en mouvement. Et c'est ça le message qu'il veut faire passer et qui sera la base de son succès électoral le 17 mars.
Et on suivra ça évidemment avec attention d'ici au 17 mars et après à travers notamment vos papiers dans le soir. Merci beaucoup Benjamin.
Merci.
C'est une sortie très attendue au cinéma, Ferrari, biopic partiel consacré à une partie de la vie du légendaire constructeur automobile italien, sera en salle ce mercredi. Adam Driver incarne Enzo Ferrari, Penelope Cruz incarne son épouse. Le film a été présenté à la Mostra de Venise. C'est à Venise que Gaël Mouri a pu interviewer Adam Driver. L'acteur répond ici à une question précise. Est-ce que c'est compliqué ? Est-ce que c'est limitant de se glisser dans la peau d'un personnage historique ? Oui et non. Il y a une chose physique à laquelle on ne peut pas échapper. Il y a certains éléments, comment dire, d'une certaine manière, la décision a déjà été prise pour vous. La seule différence ici, c'est que je devais porter des prothèses. Les prothèses, c'est comme si on cartographiait une personne, et puis ensuite, vous devez mettre cette carte sur vous, enfiler cette carte. Les prothèses, je pourrais en parler des heures, parce que ça explique tout le processus. Ça prenait un temps, 2 heures par jour, pour les enfiler, en plus d'un programme de tournage de 16 ou de 18 heures. Et ensuite, encore 1 heure pour sortir des prothèses. C'est une longue journée pendant laquelle vous êtes littéralement dans le corps de cette personne. Pour répondre à votre question, est-ce que ça me limite de jouer des personnages historiques ? En fait, vous devez prendre ce qui vous amuse, ce qui excite votre imagination. J'ai joué Gucci. Il avait reçu une éducation en Angleterre. Il fallait y penser pour l'accent, par exemple. Avec Ferrari, on est sur un personnage qui crie dans une usine, un personnage intimidant. Ce genre de choses peut stimuler votre imagination. Si cela prend toute la place et que vous avez l'impression de copier quelqu'un, alors tant pis. Si c'est plus spontané, que ça arrive au milieu d'une scène, il faut que ça se fasse. À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin. Merci de votre écoute. Si vous en voulez encore, tous nos podcasts sont disponibles dans l'application du soir. Rendez-vous dans le store de votre smartphone ou de votre tablette pour la télécharger. À demain.